Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Juste un court hommage avant de commencer cette émission avec ses nouveaux horaires plus matinaux puisque nous commençons maintenant à 8h42 au lieu de 9h42. Hommage à Marcel Bohy, ingénieur chimiste de l'École supérieure de physique et de chimie de Paris, militant infatigable de l'Union rationaliste, membre du conseil d'administration de l'UER et du groupe Science, toujours prêt à aller dans les collèges et les lycées médiatiser ses connaissances. Je l'avais reçu à l'antenne de l'Union rationaliste à l'occasion de la publication de son livre, publié chez Hermann en 2010, « Vivre mieux avec la science ». Marcel Bohy est mort le 12 septembre dernier et nous lui rendons hommage à l'Union rationaliste. Mais aujourd'hui, je reçois à l'antenne un autre des membres de l'Union rationaliste, un membre éminent, également membre du CA de l'UER, Michel Blais, que les professeurs de philosophie connaissent bien, car il a dirigé chez Larousse ce merveilleux grand dictionnaire de la philosophie, comme d'ailleurs le dictionnaire des concepts philosophiques dans lesquels les étudiants s'instruisent beaucoup. Michel Blais, vous êtes directeur de recherche au CNRS, philosophe et historien des sciences, et vous publiez aujourd'hui chez Armand Collin, cette semaine même, un ouvrage qui est d'une très grande inactualité, comme tous les ouvrages philosophiques dignes de ce nom, intitulé « Dieu, la nature et l'homme, l'originalité de l'Occident ». Alors peut-être d'abord une première question sur ce titre, où Dieu figure en première ligne, et qu'il ne faudrait pas mal interpréter, car ce à quoi vous vous livrez, Michel Blais, c'est à une mise en perspective historique que vous permet d'ailleurs vos travaux antérieurs, notamment ceux consacrés à Giordano Bruno et à l'idée d'infini, dans laquelle vous reprenez ce que vous appelez l'originalité de l'Occident, l'idée de nature et l'épuisement de Dieu. Donc, en vous interrogeant sur ce titre, je sais bien que c'est sur le mouvement même du livre et de ses trois parties que je vous interroge.
Bien. Bon, ben, je vais essayer d'y répondre. Alors, effectivement, le titre « Dieu, la nature et l'homme » correspondent aux trois parties du volume, ces trois moments du volume, chacune de ces parties étant associée à l'idée d'épuisement. Épuisement de Dieu, épuisement de la nature, épuisement de l'homme, puisque nous parcourons une période qui va, je dirais, disons, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est ce mouvement. Alors, L'idée centrale de cette affaire, et c'est pour ça que Dieu apparaît en tête, hein, c'est une affaire historique, ce n'est pas une affaire conceptuelle. L'idée centrale de ce livre, c'est que l'idée que l'on se fait de la nature aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont nous vivons aujourd'hui, au milieu des problèmes écologiques, des difficultés au travail, des soucis en tout genre qui font notre quotidien et qu'on interprète souvent en termes néolibéraux, ce qui est vrai. Je pense qu'on doit les voir d'une manière plus historique et plus profonde. Et ce que moi j'avance comme thèse, c'est que derrière tous ces problèmes, il y a la conception ou l'idée que l'on se fait de l'idée de nature en Occident. Alors il faudrait peut-être aussi, parce que l'idée de la nature n'est pas une donnée. La nature n'est pas la même chez les Australiens, en Afrique, partout. L'idée de nature que l'on se fait n'est pas la même. En Occident, on en a construit une, on a une certaine idée de nature. Bon, alors d'abord, je voudrais aussi préciser ce que j'entends par Occident.
Oui, c'était l'objet de ma deuxième question.
Et oui, mais elle est essentielle parce qu'on peut faire, on a tout de suite l'idée, cette idée, alors il faut aussi y revenir. L'Occident, aujourd'hui, c'est effectivement, disons, les États-Unis, la France et l'Angleterre belliciste. Bon, l'Occident, c'est pas que ça. L'Occident, c'est une très longue histoire. C'est un espace géographique immense et dans lequel s'est constituée l'idée de nature que j'ai évoquée tout à l'heure et qui est l'idée de nature que l'on a fabriquée en Occident. Mais cette idée de nature, elle s'est fabriquée sur plusieurs millénaires en considérant les Grecs, la terre d'Islam, puis le Moyen-Âge chrétien. C'est-à-dire que pour moi, l'Occident, c'est beaucoup plus large que ce dont j'ai parlé il y a 2 minutes. L'Occident, c'est un ensemble intellectuel qui, évidemment, dans lequel je mets bien volontiers et sans aucun problème la Syrie, l'Irak et tous ces pays. Ils appartiennent à notre pensée. C'est avec eux aussi qu'on a construit l'idée de nature en Occident. Donc, c'est pour ça que certains débats me semblent absolument incongrus. Il n'en reste pas moins que dans une partie particulière de l'Occident, à partir du XIIIe siècle, d'ailleurs il suffit de lire, je le donne dans le livre, l'historien Ibn Khaldoun, pour se rendre compte qu'il...
Vous citez un magnifique texte.
Oui, il est absolument magnifique.
Sur la science.
Voilà, Ibn Khaldoun dit d'abord, cela s'est passé en Grèce, puis après en terre d'islam. Bon, et puis maintenant, j'apprends, on est au XIIIe siècle, j'apprends que des universités se créent sur la rive nord de la Méditerranée, c'est-à-dire, pour lui qui est maghrébin, ça se situe donc en Italie et sur les bords de la Méditerranée. Et à ce moment, il dit, je suis heureux que ça reparte là, parce que lui, il semble, c'est un peu difficile. Donc, ça repart là. Eh bien, c'est ce redépart qui se nourrit de tout ce qui a été fait avant. Donc, qui m'intéresse et qui va se poursuivre pour construire ce qu'on appelle la pensée occidentale.
Je comprends bien. Voilà. Sans polémiquer du tout sur le terme d'Occident, j'avais, je crois, dans les années 2010, invité à l'antenne de l'Union rationaliste Georges Corme, qui réfléchit de façon très pertinente à la fracture imaginaire de l'Orient et de l'Occident et qui travaille justement sur l'Europe et le mythe de l'Occident. Mais sans revenir sur... cette polémique toujours possible à propos de cette catégorie d'Occident et en comprenant bien ce que vous avez en tête sur ce qui se passe au niveau du concept de Dieu et de nature en Occident, quel est, Michel Blais, sous-titre de votre ouvrage, l'originalité de l'Occident là-dessus?
Voilà, alors effectivement, à partir du XIIIe siècle, il se passe quelque chose dans cette partie autre qui n'est plus le bassin méditerranéen au sens strict, mais ailleurs, il se développe autre chose. Et cette autre chose est liée et va permettre le développement de la civilisation et de la science occidentale, d'une certaine science, d'une certaine manière de concevoir le monde. Et ce que je pense important de prendre en compte, d'ailleurs Georges Duby l'a fait autrefois pour le Moyen-Âge, c'est la question de l'incarnation qui est le seul dogme qui n'appartient qu'au christianisme. Il n'appartient pas aux autres religions du livre.
Donc, pour vous, Michel Blais, la spécificité de l'Occident...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'incarnation? Parce pour nous, aujourd'hui, on ne le pense pas de façon très, très forte.
Oui.
Il faut bien comprendre que dans l'Occident médiéval, l'incarnation est le cœur de la pensée théologique et donc de la pensée. Tout le monde est absolument convaincu de l'incarnation. On a du mal à y penser puisque nous en sommes moins convaincus aujourd'hui. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu s'est incarné en un homme, c'est-à-dire qu'il y a eu la possibilité d'un lien entre le spirituel et le terrestre. C'est-à-dire qu'il est possible que des objets à la fois terrestres et spirituels, des objets... Je parle du Christ, mais enfin peu importe, qui existe. Et ça, c'est une ouverture de pensée qui transforme la manière d'aborder, disons, les phénomènes terrestres. Un exemple très simple, qui est celui aussi de Duby. Saint Denis et l'abbé Suger au XIIe siècle. On est loin. Suger, qu'est-ce qu'il pense? Et Duby parle d'incarnation aussi. Qu'est-ce qu'il veut faire, Suger? Il veut créer dans son église de Saint-Denis les lumières de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, qui est aussi un peu un néoplatonicien, il ne faut pas oublier que le néoplatonisme travaille aussi cette incarnation. On ne va pas rentrer dans toute l'histoire de la philo. Néoplatoniste qui passe par le Moyen-Âge, Byzance et tout ça. Donc tout le monde est là-dedans de toute manière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il dit « cette lumière est à la fois divine et matérielle ». Et donc là, on a quelque chose de totalement neuf comme idée. C'est-à-dire qu'on a un objet, parce qu'il est divin, il possède des propriétés de la divinité et en même temps, il est matériel sur Terre.
Donc il y a une unification de la nature.
Et c'est en ce sens qu'il peut y avoir épuisement de Dieu, c'est que progressivement, suggère, puis après Copernic pour la géométrie céleste, puis après Giordano Bruno pour l'infini, Dieu est vidé de ses propriétés, de ses qualités, de ce qui faisait sa divinité, et tout ce qui fait sa divinité devient terrestre. Et à ce fait, le Dieu très, très puissant du Moyen-Âge devient, disons, le Dieu, le principe de raison des philosophes du XVIIe siècle. Dieu, ce n'est plus qu'un principe de raison, contrairement à ce que souhaitait un Pascal, qui aimerait bien redonner à Dieu toute sa puissance et sa force. Non, il n'est plus rien, c'est un Dieu moral, c'est tout. Mais ce qu'il avait d'infini, eh bien, on l'a sur Terre maintenant. Donc, c'est un principe de fondation, Dieu, si on croit en Dieu. Bon, ça, c'est une autre affaire, mais ça n'a plus. Il est vidé des objets qui faisaient sa spécificité. Et c'est en le vidant de ces objets qu'on a créé la possibilité d'une physique mathématique, en ce sens qu'on a introduit dans le monde, d'une part, la possibilité d'une géométrie céleste. Copernic est très intéressant pour ça. Copernic n'est pas un homme qui lance la Terre dans les cieux, c'est un homme qui fait de la planète, de la Terre, un objet céleste, un astre céleste aussi parfait que les autres. Il lance donc ça, c'est-à-dire qu'il est totalement néoplatonicien. C'est la géométrie céleste qui s'incarne dans la Terre et qui en fait un objet céleste. Il faut pas le lire comme le père de la science moderne. Le père de la science moderne, je crois c'est plutôt Galilée. Pourquoi ? Parce que Galilée, lui, va passer après Giordano Bruno, qui, pour le dire très rapidement, Giordano Bruno fait tomber l'infini réel immanent à la nature, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un infini en nombre et en grandeur qui est immanent. Ça permet d'avoir un infini. Et Galilée, lui, peut utiliser cet infini pour construire une physique mathématique parce qu'il a besoin de la continuité du temps et de l'espace qui n'existait pas avant. L'infini appartenait à Dieu en propre. Et le médiateur, c'était Jésus-Christ. Tout ça disparaît. Bon.
Et alors,
du point de vue de la construction de la nature, on peut toujours croire à l'incarnation, mais ça n'a plus d'impact sur la construction. Et la nature, l'idée de nature, disons, en Occident, repose sur cela. Voilà. Et ça donne une intelligibilité en plus à ce qu'on appelle la révolution scientifique.
Alors, bien sûr.
C'est ça, c'est ça qui est très important. Alors qu'on n'en a aucune. On rapporte toujours ça à des événements économiques, politiques. Mais les événements économiques et politiques ne me disent pas pourquoi la Terre se met à tourner dans les cieux alors qu'elle était stable au milieu de la Terre et pourquoi Galilée utilise l'infini pour faire de la physique. Ça ne me le dit pas. Il a besoin d'autre chose. Et c'est cette autre chose que j'ai essayé de chercher dans la pensée, disons, qui précède.
Oui.
Et on voit bien, alors, effectivement, à un certain moment...
En passant par Nicolas de Cuse, Giordano Bruno.
Bruno et les autres avant, Suger. Et on voit bien qu'au moment de Suger, par exemple, les théories de la lumière se transforment. Au XIIIe, XIVe siècle, la lumière devient un objet d'étude. Pourquoi ? Parce qu'on peut la géométriser. C'est-à-dire que pour géométriser la nature, il faut... que Dieu tombe sur terre, ou du moins ce qui fait Dieu.
Alors, une de vos thèses, une fois bien entendu ce mouvement qui amène la révolution de la science moderne, galiléenne, une des thèses de votre livre, c'est que le modèle qui permet de penser en Occident à la fois la nature et l'homme, c'est... Alors peut-être que vous n'allez pas en parler en termes de modèle, c'est le modèle de l'énergie.
Oui, alors bon, il faut là aussi, parce que mon travail est très historique et je souhaite qu'il soit conçu comme historique. Et le titre qui peut troubler au départ, c'est un titre d'historisation. Alors effectivement, là on s'était arrêté précédemment à la constitution, au départ de la nature
comme science.
De la nature qui devient, où la science devient possible. C'est une nature qui rend possible la science. Très vite, cette possibilité est associée au travail, disons, de ce qu'on appelait les artisans, les ingénieurs. Et à ce moment-là, immédiatement, la physique mathématique qui est en train de se créer au XVIIe entre dans l'atelier, je dirais. En entrant dans l'atelier, elle repense toutes les techniques d'une autre manière. Mais elle les repense de façon extraordinairement rationnelle, c'est-à-dire qu'elle les rationnelle au sens, disons, de la physique mathématique. Elle les pense en sens, à partir de ce moment-là, on repense les techniques et on se met à pouvoir Par exemple, comparer ce qu'on n'a jamais fait, la force productive d'un cheval, d'un homme, d'une machine. C'est-à-dire que tous ces objets deviennent progressivement d'abord des forces productives. Mmh. On a fait travailler des hommes, mais on ne s'est jamais posé la question de les comparer, par exemple, à la force du poids qui tombe. À ce moment-là, à partir du moment où on les compare, on entre dans une, disons, on peut réfléchir à la productivité, on peut réfléchir à la maximalisation de ce qu'on veut obtenir, et on voit bien que le développement des techniques et le développement de la productivité est celle du XVIIIe siècle. Mais au tournant du XIXe siècle, la mesure de cette productivité, qui s'appelle aussi la mesure du travail, mm-hmm. par les économistes, la mesure du travail modifie, et ça je n'entrerai pas ici dans les détails, modifie un certain nombre de concepts de la physique, et en particulier permet l'introduction d'un concept que j'ai toujours trouvé d'une opacité extrême, qui est le concept d'énergie. Et à ce moment-là, et là c'est fascinant de lire les textes d'ailleurs que je donne, mm-hmm. soit de Coriolis, soit de Helmholtz, les deux pères du concept de travail et du concept d'énergie, car ils disent eux-mêmes que, en fait, la Terre, la nature est un réservoir d'énergie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est dans un système absolument extraordinaire où lorsque vous vous promenez dans un désert, pour prendre un exemple, ce n'est plus un désert. C'est un champ pétrolifère qui va donner de l'énergie. C'est-à-dire que la nature est une nature pensée simplement en termes d'énergie.
Et une de vos idées, précisément, Michel Blais, c'est qu'on va pouvoir épuiser cette nature comme on va pouvoir épuiser l'homme.
Elle ne peut être que dans l'épuisement, puisque de toute façon, il faut utiliser cette nature au maximum. Et ils le disent, c'est la construction du capitalisme.
C'est sur cette analyse que nous allons clore cette émission en invitant les lecteurs à lire votre ouvrage « Dieu, la nature et l'homme ». Je remercie Dany Journeau qui a rendu possible cette émission et je renvoie à la lecture des deux derniers numéros de Raison Présente, les conflits dans les mouvements sociaux et figure du spectateur. Je vous donne rendez-vous au mois prochain et je vous souhaite un bon dimanche.